Radio Okapi.
Le journal, présenté par Billy Van Lutumba.
Nous parlons en ouverture de ce journal de l'inhumation des victimes du naufrage du bateau MV Merdi sur le lac Kivu le 3 octobre dernier. Les familles éplorées ont exprimé leurs besoins majeurs pour un soutien et accompagnement du gouvernement. Aligné également dans cette édition vespérale sur Radio Okapi, c'est encore des réactions après l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La RDC doit se sentir interpellée pour plus d'actes concrets dans la promotion et la protection des droits humains. En fin de cette édition, nous vous amènerons à Beni pour parler de ces 500 ménages qui ont été touchés, des maisons détruites et deux personnes portées disparues. C'est après des fortes pluies qui se sont abattues mercredi après-midi. Amis à l'écoute, bonsoir. Nord Kivu, c'est dans la douleur et consternation que les familles des 11 victimes du naufrage du bateau MV Merdi ont enterré les leurs ce jeudi au cimetière Macao. Ces familles qui ont perdu des êtres chers, voire même 5 à 11 personnes dans une famille, ont besoin du soutien et un accompagnement des autorités et de la communauté tout entière pour surmonter ce choc. C'est entre autres réactions qu'on pouvait entendre après l'inhumation des naufragés. Ces familles ont salué l'implication des autorités nationales et provinciales du Nord et du Sud Kivu pour l'organisation de ses obsèques. Sifa Maguru.
C'est dans cette atmosphère de tristesse que les 11 corps des victimes du naufrage du 3 octobre ont été enterrés en présence des autorités. Cette tragédie laisse des plaies profondes et qui seront difficiles à cicatriser. Un témoignage poignant de ses papas qui se retrouve veuf du jour au lendemain avec 10 enfants à nourrir. Il est sous le choc et ignore totalement par où commencer. J'ai perdu ma femme. Elle m'a laissé 10 enfants. C'est une douleur et je manque quoi dire. Nous nous retrouvons des orphelins. Nous n'avons pas de parents. Le gouvernement ne s'occupe pas de nous. Beaucoup de gens sont morts. Ce cas n'est pas unique. Une autre dame témoigne avoir perdu plusieurs membres de sa famille. Dans notre famille, nous avons perdu beaucoup, beaucoup de gens. Difficile à compter. Tuminova, c'est une famille. C'était tous les bateaux. Nous disons merci à notre gouverneur. Il nous a beaucoup aidés. Que Dieu les bénisse. Ce drame restera figé dans les mémoires à jamais. Une centaine de personnes, en majorité des femmes cultivatrices et des commerçantes accompagnées par leurs bébés, sans compter des jeunes et des hommes qui ont péri dans ces naufrages qui s'est déroulé presque à l'entrée du port de Kituku. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Dans la même ville, des crépitements des balles ont une fois de plus été entendus entre 22h et 3h du matin dans la nuit du mercredi à ce jeudi dans plusieurs quartiers. C'est en particulier dans les quartiers Mugunga et Ndosho en commune de Karisimbi. Si les raisons de cette situation sont diversément justifiées par les autorités locales, la population civile se dit inquiète comme nous le dit Bernard Anyangi.
Il n'y a jusqu'ici aucune déclaration de la police au sujet de ces crépitements. Les chefs de quartier Mugunga et Ndosho notamment parlent des échanges de tirs entre les patrouilles des forces de l'ordre et des bandits armés qui tentaient de cambrioler dans certaines avenues. Ils n'ont livré cependant aucun bilan de ces accrochages, excepté 4 présumés bandits interpellés avec des armes dans une avenue d'Ndosho. Les effets de ces crépitements de balles chaque nuit dans plusieurs quartiers de la ville de Goma deviennent inquiétants, comme en témoigne ici le président du conseil local de la jeunesse de Karisimbi.
Imaginez-vous, les balles ont crépité à l'excès. Et nous nous posons la question pourquoi ces balles sont en train de crépiter presque toutes les nuits. Et arrivé le matin, on ne sait même pas la cause. On se pose la question, quel serait le sort de nos mamans qui sont enceintes, de nos bébés.
Le conseil des jeunes en commune de Karisimbi alerte le commandant région et le commissaire provincial de la police pour une solution à cette situation qui implique, pour la plupart des cas, selon cette structure, certains éléments incontrôlés de l'armée et des groupes de Wazalendo. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
En plus bref, dans la province du Tanganyika, 5 rescapés, tous membres d'équipage d'une embarcation, ont été secourus ce mercredi par des pêcheurs sur le lac Tanganyika au niveau de la localité Busindi dans le territoire de Kalemie. D'après le chef de localité, il s'agit des victimes du naufrage qui s'est produit ce mardi d'une embarcation tanzanienne qui se rendait à Kalemie en provenance de la Tanzanie avec plusieurs marchandises. La cause du naufrage serait la surcharge et les mauvaises conditions météorologiques, indiquent des témoins, et plusieurs marchandises ont été récupérées. Comme dit dans le sommaire, élection de la RDC comme membre au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, les réactions des ONG de défense des droits humains continuent d'alimenter le débat. Tout en saluant cette nouvelle, l'Association africaine de défense des droits de l'homme AZADO et l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ affirment que cette élection est une responsabilité et une interpellation des autorités à plus d'actes concrets dans la promotion et la protection des droits humains. Par contre, la Fondation Bill Clinton pour la paix se dit déçue de cette élection et reste sceptique quant à l'amélioration par les autorités congolaises de la situation des droits de l'homme au pays. Gas Hamzati.
Pour Jean-Claude Katende, le président de l'AZADO, il est temps que la RDC fournisse un effort d'être un pays modèle en matière de droits de l'homme.
C'est aussi une responsabilité pour le peuple congolais parce que maintenant, nous avons une corde par laquelle nous tenons le régime du président Tshisekedi pour lui rappeler ses obligations nationales et internationales en matière de droits de l'homme. Et je pense que c'est une opportunité pour le pays de faire un pas dans la bonne direction en libérant les personnes qui sont aujourd'hui en détention ou qui ont été condamnées injustement pour démontrer que cet engagement a de l'impact direct sur la situation de droits de l'homme dans notre pays.
De son côté, Emmanuel Cole de la Fondation Bill Clinton pour la paix pense qu'avec le tableau sombre de la situation des droits de l'homme au pays, cette élection de la RDC ne rassure pas.
Nous avons des cachots clandestins, nous avons des lenteurs judiciaires, nous avons d'enlèvements, ainsi, alors que l'enlèvement constitue un crime. Et nous avons la constitution, mais qui ne sont pas respectées. Si peut-être il peut profiter de cette élection pour arranger les choses, tant bien, mais j'espère pas de quelque chose de bon.
Rappelons que le Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, est composé de 47 États membres, dont désormais la RDC, élu pour un mandat allant de 2025 à 2027.
Autre nouvelle en rapport avec la justice et les droits de l'homme, la Cour de cassation a condamné en début de cet après-midi, trois hauts magistrats de la Cour d'appel du Haut-Lomami. Ils étaient poursuivis, entre autres, pour corruption. L'ONG de défense des droits de l'homme ACAJ, Action congolaise pour l'accès à la justice, salue cette décision qui est qualifiée de pédagogique tendant à redresser la justice par notamment la lutte contre la corruption. Jean Gandou.
L'interpellation et la condamnation de ces trois hauts magistrats fait suite à un audio balancé sur les réseaux sociaux dans lequel deux d'entre eux et un avocat parlent du partage d'une somme de $35,000 mise à leur disposition par un client. Dans ce même élément sonore, on pouvait entendre les incriminés décrier le mauvais partage que leur chef en a fait. S'étant saisi du dossier, la Cour des cassations les a poursuivis pour corruption et blanchiment des capitaux. Ainsi, ils ont été reconnus coupables et ont écopé des peines allant des 2 à 7 ans de prison assorti des peines complémentaires. Cette condamnation est saluée par Georges Kapiamba, président national de ACAJ, une ONG de défense des droits de l'homme.
Nous encourageons le Conseil supérieur de la magistrature à poursuivre avec cette nouvelle politique de lutte contre la corruption, car ce fléau a mis à genoux la RDC et nous pensons que en luttant contre cette corruption, le pays pourra se développer.
À Kamina, le sort réservé à ce haut magistrat a reçu aussi un écho favorable, comme nous l'indique Fiston Nyembwe, notable du coin.
Ce qui était rêve est devenu une réalité. Auparavant, les gens se croyaient être intouchables. Les hauts magistrats aujourd'hui qui se retrouvent être condamnés, une chose qui n'était pas facile. Vraiment, nous saluons la bravoure de la justice.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Poursuite ce jeudi des audiences foraines du tribunal de grande instance de Kalemi dans le territoire de Moba. Depuis le début de ces audiences, ce mardi, une vingtaine des prévenus sont passés à la barre. Le PNUD, à travers son programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la justice, finance ces audiences qui vont du 8 au 18 octobre. Paul Mounanga, reportage.
Les prévenus sont poursuivis notamment pour viol sur mineurs, association de malfaiteurs, vol qualifié, meurtre et extorsion. Donc des infractions qui sont punissables par la loi et dont la condamnation va au-delà de 5 ans, précise le ministère public. Ce mercredi, le tribunal a traité 14 dossiers. La première audience s'est tenue ce mardi à la tribune du Grand Marché de Kirungu. Pour les procureurs de la République près le tribunal de grande instance de Kalemi, le territoire de Moba se trouve à une longue distance de la ville de Kalemi. Charles Benjamin Tapale indique que plusieurs dossiers de la compétence du tribunal de grande instance sont restés pendants depuis longtemps. C'est ainsi que le tribunal a trouvé nécessaire de se déplacer à Moba pour traiter plusieurs dossiers. et il ajoute que c'est pour rapprocher la justice des justiciables. Signalons que le tribunal a constaté le décès des prévenus depuis 2023 par un acte de décès avec le concours de l'officier du ministère public. À cette occasion, il a prononcé des jugements d'extinction de l'action publique après avoir reçu les réquisitions de l'officier du ministère public. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette triste nouvelle qui affecte les communautés congolaises vivant au Canada. Le corps d'Alexandra Martine Diengo Lumbayi, étudiante au Canada, a été repêché à la marina de l'île Saint-Quentin où elle avait été vue pour la dernière fois. L'étudiant de 21 ans manquait à l'appel depuis mercredi dernier. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes et les circonstances de la mort de la jeune femme. L'ambassadeur de la RDC au Canada, Joska Kabongongoy, qui s'est rendu à Trois-Rivières, lieu du drame, a exigé l'autopsie sur le corps retrouvé afin de déterminer les causes de cette disparition. Vous pouvez l'écouter dans cet extrait.
C'est avec une grande tristesse que je suis venu ici pour constater personnellement ce qui s'était passé et constater personnellement l'endroit où notre fille a trouvé la mort. Nous allons demander une autopsie pour avoir vraiment l'équerre nette des circonstances de ces décès. Donc l'ambassade est prête même pour payer cette autopsie. Donc dès que nous quittons ici, nous allons nous diriger vers la mairie. Et aussitôt que nous aurons quitté la mairie, nous allons nous diriger vers la morgue, mais nous exigeons que les enquêtes se poursuivent parce que nous avons besoin de connaître la vérité sur la disparition d'Alexandra. Nous sommes en contact avec la famille. Le gouvernement congolais est en contact aussi avec la famille. On est en train d'accompagner. Je voudrais vous dire à tous les étudiants, soyez rassurés que l'ambassade ne saura jamais vous abandonner.
Ici à Kinshasa, le gouvernement, à travers la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yambakazadi, travaille avec la famille, mais aussi avec l'ambassade du Canada en RDC pour le rapatriement de la dépouille de l'étudiante congolaise de 21 ans de l'Université du Québec. Les trois parties ont évoqué l'évolution de l'enquête policière, mais aussi les prochaines étapes dans ce dossier. Écoutez tour à tour l'oncle de la victime et l'ambassadrice du Canada en RDC.
Nous venons là de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères, qui nous a reçus parce que vous comprendrez que, outre la famille souffre, parce que c'est notre fille, c'est notre enfant, c'est notre sœur, mais c'est un problème d'État parce que c'est une citoyenne congolaise qui est allée pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Et nous remercions le gouvernement par rapport à ça. Merci.
De la jeune étudiante congolaise qui a été retrouvée, dont le corps a été retrouvé hier à Trois-Rivières dans la province de Québec. Donc nous avons discuté de l'enquête policière qui progresse, les prochaines étapes, le rapatriement, mon rôle comme ambassadrice du Canada ici en RDC, le rôle de l'ambassadeur de RDC à Ottawa pour faciliter le rapatriement le plus rapidement possible en RDC. C'est une très triste histoire.
Actuellement, nous sommes dans la province de l'Ituri pour parler de ces plusieurs raisons qui connaissent des pluies abondantes ces dernières semaines. Des cas d'inondations et de glissements de terrain sont observés notamment dans les territoires de Mahagi et d'Irumu. À Bounia, par ailleurs, ce sont surtout les déplacés qui en payent le prix. À chaque fois qu'il pleut, ils vivent un calvaire. Leurs abris fait des bâches depuis au moins 5 ans, souhaitent de partout. Sadiq Aboubakar s'est rendu dans un site de la ville, voici son reportage.
Nous sommes dans le site des déplacés de Kigonze. Sous un ciel nuageux, quelques familles commencent déjà à s'inquiéter de la probable tombée de la pluie. Devant nous, une mère de famille est entourée de ses 3 enfants, visiblement famés. Cependant, une inquiétude se lit sur son visage. La pluie qui s'annonce. Car ses enfants et elle vivent sous une vieille tente, laquelle suinte de partout. Abeti Namadasi, c'est ainsi qu'elle s'appelle, s'imagine déjà le calvaire à venir.
À chaque fois qu'il pleut, nous vivons du calvaire. Et lorsque la pluie est accompagnée d'un vent violent, c'est encore pire. Ces bâches ont tendance à se détacher de l'abri. Regardez comment cet abri est déjà vieux. Ça suinte de partout. Pendant la nuit, on est obligé de rester debout avec les enfants jusqu'à ce que la pluie cesse pour maintenant étaler nos nattes dans la boue. On est exposé au paludisme tous les jours.
Ces abris datent d'au moins 5 ans. Les bâches, en lambeaux, nécessitent d'être changées, affirme-t-elle. Il y a de cela 2 semaines, la maison de communication Vodacom a assisté quelques centaines de familles avec notamment de nouvelles tentes, mais le besoin reste énorme dans ce site qui héberge au moins 3300 familles. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Et nous terminons par le Nord Kivu. Au moins 500 ménages ont été touchés, des maisons détruites et deux personnes portées disparues à la suite des fortes pluies qui se sont abattues mercredi après-midi sur la ville de Beni. Le responsable local de la protection civile indique qu'il s'agit d'un bilan provisoire. Selon Jean-Paul Capitula, ces dégâts ont été causés par le débordement de certaines rivières traversant la ville. D'après lui, les lits et les berges de certaines de ces rivières sont envahis par des constructions anarchiques, bloquant ainsi l'écoulement normal des eaux. Jean-Paul Capitula, responsable local de la protection civile à Beni, explique au micro de Martial Papimoukeba.
Cette pluie a commencé sur les collines qui surplombent la ville. Et donc, toutes les rivières qui proviennent de ces collines ont été inondées au point que, avant même que la pluie n'arrive dans la ville, il y avait déjà des dégâts qui ont commencé. Jusque maintenant, nous n'avons pas les bilans totaux. On essaie de dénombrer autour de 500 ménages touchés qui habitent les longs des rivières. Des maisons ont été détruites, deux personnes portées disparues sur la rivière Biaoutou. Les lits des rivières sont agressés par des constructions. C'est-à-dire, au lieu de laisser large le lit des rivières, mais ils sont rétrécis et donc sont agressés par des constructions qui font des blocages pour que l'eau ne coule plus normalement. Les populations qui habiteraient les longs des rivières parlent même de certains endroits où les dessus des rivières seraient vendus par des agents de l'État. Le col fossier condamne l'habitation des lits des rivières.
Actualité internationale.
Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies a réitéré son appel lancé aux forces armées extérieures et aux mercenaires pour leur retrait définitif de la Libye le plus vite possible. Dans son allocution à la tribune des Nations Unies, Dai Bing a invité la communauté internationale à continuer de soutenir les efforts visant à trouver des solutions adaptées aux besoins des pays en crise en Afrique. Une requête qui s'applique au cas libyen. Il a également appelé à œuvrer pour le retour de la sécurité et de la stabilité afin d'améliorer les conditions de vie de la population en Libye. Et puis la Turquie a entamé l'évacuation de ses citoyens du Liban alors que les tensions entre Israël et le groupe Hezbollah soutenu par l'Iran continuent de s'aggraver. Des milliers de personnes ont embarqué sur un navire de la marine turque pour un voyage de 10 heures en direction de Mersin, dans le sud de la Turquie, fuyant une escalade des violences dans la région. Ces événements surviennent alors qu'Israël a intensifié ses frappes aériennes au Liban la semaine dernière, tuant plusieurs commandants du Hezbollah. Et c'est par cette page internationale que nous allons mettre un terme à cette édition du journal sur Radio Okapi pour ce jeudi 10 octobre. Merci de l'avoir suivi.